À vous Thomas Cluzel.
Bonjour Maëlys Besserie, bonjour à tous et à toutes. La France ferait-elle montre d'un excès de prudence dans sa campagne de vaccination? C'est du moins ce que semble considérer aujourd'hui un nombre toujours plus important de responsables politiques et scientifiques. De son côté, le gouvernement, confronté à un scepticisme d'une partie de la population face au vaccin, dit assumer le temps des explications.
Quel bilan Emmanuel Macron tirera, lui, de cette année 2020 hors norme? Et surtout, quelle perspective le président entend-il tracer pour 2021?
Quoi qu'il en soit, c'est ce soir que le chef de l'État adressera donc ses vœux aux Français à la télévision.
Après un demi-siècle d'intégration européenne et 4 ans et demi d'une saga du Brexit, aux multiples rebondissements, le Royaume-Uni vit aujourd'hui ses dernières heures au rythme des règles européennes.
Ou quand le Royaume-Uni entame donc une nouvelle page de son histoire dans un contexte de crise profonde, nous irons à Londres et serons en ligne avec Tom Brake, député du parti pro-européen libéral démocrate. Et puis toujours dans l'actualité à l'étranger, l'administration du président sortant Donald Trump a annoncé qu'elle allait imposer des droits de douane supplémentaires sur des produits européens, et ce à 3 semaines seulement de la transition présidentielle. Enfin, 12h55, Maëlys, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Et nous recevrons Colette Poggi pour son ouvrage La Bhagavad Gita ou l'art d'agir aux éditions des Équateurs.
Tandis que la planète tout entière se prépare à tourner la page de cette année 2020 sans regret, Emmanuel Macron se prépare lui à des vœux sans cotillon lors de son allocution télévisée de ce soir. La 9e de l'année, le chef de l'État entend délivrer un message de vérité et de transparence sur son entourage. Après avoir endossé successivement l'uniforme du chef de guerre, puis du père protecteur, on imagine qu'Emmanuel Macron aura surtout à cœur de redevenir ce maître des horloges dont l'agenda aura été totalement balayé par la pandémie. Alors bien entendu, la crise sanitaire reste la priorité de l'exécutif. Emmanuel Macron devrait également insister sur la reconstruction économique du pays, mais plus encore, sans doute conscient des critiques qui lui sont portées, le chef de l'État devra tracer des perspectives claires pour 2021. C'est du moins l'analyse portée par Arnaud Mercier, professeur à l'Institut français de presse, spécialiste en communication politique, joint au téléphone par Sophie Delpont.
Ces vœux aux Français doivent être l'occasion de tirer une sorte de bilan de l'année 2020. Et avec comme double priorité de parler à la fois de l'aspect épidémique sanitaire, mais aussi de l'aspect économique, et d'essayer d'être à peu près clair sur les perspectives qu'il trace pour 2021, avec la stratégie de vaccination qui devrait permettre, là aussi les médecins le disent, de voir enfin le bout du tunnel, peut-être pour l'été ou quelque chose comme ça. Il est clair que l'exécutif est jugé assez sévèrement par une majorité de Français pour avoir à plusieurs reprises donné le sentiment d'avoir changé d'avis. Évidemment, on pense aux masques, on pense à la stratégie du déconfinement, et ça continue avec la question des restaurateurs, de la culture. Un discours comme celui des vœux devrait être l'occasion pour le président de la République d'essayer d'accréditer l'idée que désormais, il sait clairement où il va. Même si on peut penser que ce n'est pas à l'occasion de ce discours des vœux qu'il va faire des annonces et que cela, ça sera fait pour la semaine prochaine et sans doute par l'intermédiaire plutôt du Premier ministre, puisqu'on a vu que depuis un certain temps, la stratégie d'Emmanuel Macron est de pousser en avant plutôt son Premier ministre que lui-même sur l'annonce des mesures concrètes.
Voilà, Arnaud Mercier, professeur à l'Institut français de presse. Il répondait à Sophie Delpont et je précise qu'à l'issue de l'intervention télévisée du chef de l'État, France Culture vous proposera une émission spéciale ce soir présentée par Stanislas Vazak. Alors Arnaud Mercier le disait à l'instant, il est peu probable que le chef de l'État fasse des annonces sur d'éventuelles nouvelles mesures restrictives. En revanche, il semble acquis que tous ceux qui espèrent la levée des restrictions anti-Covid en 2021 en seront probablement pour leurs frais. À ce titre d'ailleurs, dès samedi, le couvre-feu devrait être avancé à 18h dans les régions les plus touchées. Alors sur quelles données scientifiques les autorités se basent-elles pour avancer ce confinement nocturne? Le brassage de population est-il actuellement trop important avant 20h? Et le cas échéant, Ne risque-t-il pas d'être pire encore si, comme le souhaite Bercy, les commerces devraient rouvrir tous les dimanches de janvier? Autant de questions qui interrogent la stratégie de l'exécutif. Et que dire encore de la campagne de vaccination, cette fois-ci lancée dimanche dernier? Un certain nombre de médecins, de scientifiques, mais aussi de responsables politiques de tous bords jugent ses débuts beaucoup trop lents. C'est ainsi par exemple que les députés, les Républicains réclament l'audition en urgence du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur cette fameuse stratégie vaccinale française qui, à leurs yeux, fait figure de bonnet d'âne en Europe, avec tout au plus 200 personnes vaccinées dans l'Hexagone, quand par exemple l'Allemagne a administré dans le même temps 78 000 vaccins et l'Italie plus de 8 000. Alors qu'est-ce qui justifie de telles disparités entre la France et ses voisins? On se souvient que la même question déjà avait surgi lorsque d'autres pays avaient pris des mesures de reconfinement strictes à l'automne, à la différence de la France. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Tara, l'exécutif assure que cette lenteur est assumée.
Oui, le gouvernement s'appuie, on pourrait même dire se retranche derrière les recommandations de la Haute Autorité de Santé, instance indépendante qui a, fin novembre, donc bien avant l'arrivée des vaccins, élaboré la stratégie graduelle, stratégie appliquée aujourd'hui à la lettre par l'exécutif. Donc d'abord vaccination dans les EHPAD des personnes âgées et de leurs soignants, mais uniquement ceux ayant des comorbidités, ce qui fait 750 000 plus 90 000, donc un peu moins d'un million de personnes à vacciner en priorité. Les injections ont bien commencé, on les a même vu à la télé. Et pour l'instant, l'exécutif assure qu'il est dans les temps, même si on est juste un peu au-dessus de 200 piqûres. Ensuite seulement, il y aura la deuxième phase, c'est-à-dire les plus de 75 ans à domicile et les soignants de plus de 50 ans. Enfin, je vous passe le détail, hein, progressivement, tout le monde aura accès au vaccin. Or, beaucoup de voix, vous l'avez dit, s'élèvent pour critiquer la lenteur de cette campagne et aussi le fait que les soignants ne soient pas en première ligne. Axel Kahn, notamment, généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer, est sorti de sa réserve hier soir sur France Inter pour dire qu'il faut, si vous me passez l'expression, Thomas, changer de braquet. Écoutez cet extrait un peu long mais très explicite.
Si les médecins se faisaient vacciner en masse, si les personnels soignants se faisaient vacciner en masse, ça serait un extraordinaire mouvement et une démonstration de ce que les gens qui connaissent, les gens qui sont les plus à même d'être au courant du danger, eh bien eux, il n'y a pas de problème. Ils n'hésitent pas. Et en plus, la situation sanitaire de la France est en réalité très préoccupante, très préoccupante. Il y a la possibilité et même la quasi-certitude à terme que ce nouveau variant anglais arrive. Or, en Angleterre, considérez donc quand même, au mois de septembre, il y avait 2500 contaminés par jour. Avec ce nouveau variant, aujourd'hui, on en est à 52 à 53 000 contaminés par jour. La même chose, naturellement, peut se produire en France. Et c'est la raison pour laquelle quiconque a tant soit peu une vision et la volonté d'avoir un coup d'avance, évidemment, il vaccine les soignants aussi. Il faut vacciner les personnes fragiles, mais il vaccine en tout cas les soignants aussi, parce qu'il faudra bien, si jamais cette catastrophe sanitaire survient, et elle peut survenir, il faudra bien qu'il y ait des soignants vaccinés pour nous soigner.
Alors effectivement, comme le dit Axel Kahn, si le variant anglais débarque, eh bien les autorités sont peut-être contraintes de bouger, mais pour l'instant, elles n'ont pas flanché. D'ici fin janvier, début février, au plus tard, nous aurons le même nombre de vaccinés que l'Allemagne ou l'Angleterre, assure le ministère. Par ailleurs, aucune information sur d'éventuels retards dans la livraison des vaccins ou leur acheminement, ça ne semble donc pas être le cas. C'est une stratégie vraiment assumée. Le ministère admet tout de même que l'autorisation du vaccin Moderna, autorisation qui est attendue la semaine prochaine, la première semaine de janvier, va faciliter les choses parce qu'il est nettement plus simple à conserver que le vaccin Pfizer.
Merci Tara Schlegel. Alors tandis que le monde attend la nouvelle année avec un espoir que les vaccins permettent enfin l'éradication du Covid-19, c'est bien au crépuscule de cette année 2020, les États-Unis, pays le plus endeuillé au monde depuis le début de la pandémie, ont pour la première fois frôlé hier le seuil des 4000 morts en 24 heures. Les États-Unis qui approchent par ailleurs à grands pas de la barre des 20 millions de contaminations. Toujours au chapitre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, c'est peu dire que l'autorisation donnée hier par l'agence britannique du médicament au vaccin mis en point par le groupe britannique AstraZeneca conjointement avec l'université d'Oxford a aussitôt soufflé une lueur d'espoir supplémentaire. Londres a déjà commandé quelques 100 millions de doses dont les premières seront disponibles dès lundi. Et pour certains, il s'agirait là d'un tournant presque plus important encore que l'approbation du vaccin élaboré par Pfizer-BioNTech. Pourquoi ? parce que contrairement aux produits du tandem germano-américain, le vaccin d'AstraZeneca est moins cher, mais surtout, il peut être stocké dans un réfrigérateur classique, ce qui devrait permettre un déploiement beaucoup plus rapide. Quant à une éventuelle autorisation au mois de janvier au sein de l'Union européenne, cette fois-ci, eh bien, elle semble peu probable, a estimé l'Agence européenne des médicaments. De son côté, la Chine a annoncé ce matin, après avoir approuvé sous condition la mise sur le marché d'un premier vaccin anti-Covid, précisant que près de 5 millions de personnes à risque se sont déjà vues administrer différentes doses. Ce premier vaccin produit par Sinopharm est efficace à plus de 79% selon le groupe pharmaceutique. Précisons que ce type de mise sur le marché conditionnelle permet de proposer le vaccin au grand public lorsque les analyses des essais cliniques ne sont pas encore terminées, mais indique que le produit est efficace. Une semaine seulement après sa remise en liberté conditionnelle, Jimmy Lai retourne en prison, ainsi on a décidé ce matin. La plus haute instance judiciaire de Hong Kong, à 73 ans, rappelons que le magnat de la presse, figure du mouvement démocrate, est poursuivi pour collusion avec des forces étrangères, et ce, en vertu de la loi controversée sur la sécurité nationale, instaurée sur le territoire semi-autonome à l'initiative de Pékin. Les précisions de Léopold Picot.
Sa libération avait été une surprise, sa réincarcération l'est moins. L'opposant et milliardaire hongkongais Jimmy Lai est dans le collimateur des autorités chinoises depuis des années. Le magnat de la presse est réputé pour ses prises de position frontales contre l'ingérence du pouvoir pékinois et est l'un de ses critiques les plus influents. L'homme est gênant pour le Parti communiste chinois et il suffit de voir la haine des médias d'État à son égard pour s'en rendre compte. Jimmy Lai y est régulièrement qualifié de traître. Tout comme Joshua Wong, le militant étudiant, le milliardaire pro-démocratie fait partie des nombreuses victimes de la loi sur la sécurité nationale. Elle avait été imposée en juin par Pékin pour tenter de juguler les manifestations massives des Hongkongais. Le siège de son plus grand journal, l'Apple Daily, avait été perquisitionné en août dernier et Jimmy Lai arrêté dans la foulée. Début décembre, le milliardaire avait été condamné pour collusion avec des puissances étrangères et directement incarcéré. Il retourne donc en prison après 8 jours d'assignation à résidence. Les juges ont considéré qu'au vu des chefs d'inculpation, Jimmy Lai n'aurait pas dû être libéré sous caution.
Si la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, les investisseurs chinois, eux, n'en font pas moins face à des obstacles de plus en plus nombreux à travers le monde. Aux États-Unis notamment, l'administration Trump a placé une cinquantaine d'entreprises chinoises sur une liste noire. Le Royaume-Uni, mais aussi le Canada, l'Australie, l'Inde ont également emboîté le pas aux Américains. Et en ce sens, certains entrevoient déjà d'un mauvais œil l'accord de principe conclu hier entre Pékin et Bruxelles, à travers lequel la Chine promet d'offrir un accès sans précédent aux entreprises européennes. Il faut dire que les enjeux sont colossaux. Le stock d'investissement européen dans l'empire du milieu s'élève aujourd'hui à 150 milliards d'euros et celui des Chinois à 113 milliards. Et c'est ainsi qu'au fil des années, l'UE est même devenue le premier partenaire de la Chine et inversement, la Chine la première partenaire de l'UE devant les États-Unis. Alors faut-il y voir un acte de représailles? Toujours est-il que les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient imposer des droits de douane supplémentaires sur des produits européens. En réalité, l'accélération du calendrier électoral outre-Atlantique est certainement pour beaucoup 3 semaines avant la transition présidentielle. Rappelons également que depuis cette année, l'UE applique elle-même des droits de douane supplémentaires sur près de 4 milliards de dollars d'importations en provenance des États-Unis. Mais plus encore, Loïc Loury, cette stratégie de Donald Trump, du bras de fer commercial permanent, est en réalité une prolongation d'un conflit beaucoup plus lointain, celui-ci, et qui oppose les avionneurs américains et européens, Boeing et Airbus.
Des vins non pétillants et des liqueurs français et allemands et des pièces détachées aéronautiques, ces produits se verront imposer de nouveaux droits de douane par les États-Unis. Washington ne précise pas à quelle hauteur, ni à partir de quand, mais ces taxes s'ajouteront à celles déjà imposées depuis l'an dernier sur des importations comme le vin, le fromage, le whisky ou encore les avions Airbus. La Maison-Blanche riposte après l'autorisation donnée en octobre à l'Europe de taxer de nouveaux produits américains. Elle estime avoir été pénalisée par le mode de calcul choisi. Mais au-delà des tensions commerciales alimentées par Donald Trump, le conflit est beaucoup plus lointain et prolonge la rivalité de 2 mastodontes continentaux. Airbus d'un côté, Boeing de l'autre, l'Europe face aux États-Unis. Les 2 entreprises en effet s'affrontent depuis 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce sur les aides jugées illégales qui leur sont versées. Il s'agit du conflit commercial le plus long et le plus compliqué jamais traité par l'OMC.
C'est un Royaume-Uni divisé qui, à minuit ce soir, quittera de manière effective, cette fois-ci, l'Union européenne, tournant ainsi le dos à 48 années de relations tumultueuses avec le projet européen né sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, et ce, pour se diriger donc vers un avenir pour le moins incertain qui devra tracer les contours du destin de générations de Britanniques à venir. Alors si un vaste accord de libre-échange évitera certes une rupture trop abrupte, en revanche, les milieux économiques n'ont pas caché leurs craintes quant aux conséquences de ce bouleversement. Les entreprises britanniques en particulier risquent sans doute de souffrir, du moins dans un premier temps et en dépit donc de l'accord commercial négocié in extremis. Les explications à Londres de notre correspondant Richard Place.
S'il y a bien une chose que les entreprises détestent, c'est l'incertitude. S'il y a bien une chose que leur apporte le Brexit, c'est ça. L'accord a finalement été scellé la semaine dernière, aussitôt salué par le patronat britannique. Le CBI, l'équivalent du MEDEF, parlait de soulagement, un no deal aurait été une catastrophe. Mais le temps presse et depuis, ils se sont plongés dans les détails de cet épais document. Les détails, c'est là que se trouve le diable, généralement. Dans ce cas, l'enfer sera administratif. De manière générale, le Brexit, ce sera plus de paperasse. Après l'incertitude, c'est sans doute le deuxième plus grand fléau pour l'entrepreneuriat. De nouveaux papiers, de nouvelles conditions à remplir pour exporter des marchandises ou tout simplement pour circuler en Europe. Au bout du compte, tout ça prend du temps et donc coûte de l'argent. Le prix du Brexit a été évalué au Royaume-Uni par des économistes, 4% du produit intérieur brut dans les 20 prochaines années.
Voilà, et pour continuer d'évoquer ce départ définitif donc du Royaume-Uni, invité de la rédaction aujourd'hui, Tom Breck, ex-député du parti pro-européen libéral-démocrate. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Notre correspondant Richard Place le disait à l'instant, à l'heure du grand saut, donc les entreprises britanniques ne semblent pas véritablement prêtes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vous-même constater ?
Oui, et ce n'est pas une surprise parce que la décision, la loi a été promulguée il y a 24 heures et les entreprises ont donc quelques jours pour se préparer. Et nous savons que le fardeau administratif va leur coûter plus de 7 milliards de livres sterling.
Parmi les très nombreux changements donc que ce Brexit va induire, on le sait, les universités britanniques ne seront plus éligibles au fameux programme d'échange pour étudiants Erasmus. Comment la jeunesse, qu'on savait assez majoritairement contre le Brexit, réagit-elle aujourd'hui, en plus évidemment du contexte d'isolement de la pandémie? À quoi va ressembler au fond le futur des jeunes britanniques?
En ce qui concerne Erasmus, le Premier ministre a annoncé qu'il va y avoir un programme qui va le remplacer, le programme Turing, mais qui s'appliquera seulement aux étudiants britanniques. Seuls les Britanniques vont en bénéficier. Donc, le Premier ministre, quand il dit qu'il veut promouvoir une Grande-Bretagne qui est globale, il n'est pas évident que réduire le nombre d'étudiants qui viennent de l'Union européenne, ça va aider ça.
La jeunesse, comment réagit-elle à la sortie de son pays de l'Union européenne? Y est-elle toujours majoritairement défavorable?
Absolument, et non seulement les jeunes. Les sondages depuis le vote il y a 4 ans montrent de plus en plus une majorité importante de gens qui préféreraient rester dans l'Union européenne. Donc je pense que les jeunes, d'ici quelques années, ils vont demander ou poser des questions à leurs grands-parents pour savoir exactement pourquoi ils ont voté pour quelque chose qui va appauvrir la Grande-Bretagne et qui ne va pas nous aider qui va réduire le respect de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne et le reste du monde. Et l'impact économique pour les jeunes est très important. Nous savons, par exemple, que plus de 2000 instructeurs ou moniteurs de ski britanniques ne vont pas pouvoir travailler en Europe. Donc l'impact est très important pour les jeunes.
Pendant près de 5 longues années, hein, quasiment, les rebondissements frénétiques liés au feuilleton du Brexit ont dominé donc les affaires européennes, hanté les marchés, terni la réputation du Royaume-Uni. Et puis, sur la scène intérieure, ce qui était décrit par ses partisans comme le début d'une nouvelle ère pour une Grande-Bretagne à l'indépendance retrouvée, aura in fine affaibli surtout les liens unissant l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Y a-t-il aujourd'hui un risque de désunion au sein du Royaume. On sait que si l'Angleterre et le Pays de Galles étaient favorables au Brexit, ça n'était pas le cas de l'Écosse ni de l'Irlande du Nord.
Oui, il y a un vrai risque. Il y a des élections en mai en Écosse et il est très probable que la SNP, le Parti nationaliste, va gagner ces élections. Et il est probable que Nicola Sturgeon va pousser pour un autre référendum. Je ne sais pas si elle va prendre le risque après les Catalans en annonçant de façon indépendante un référendum. J'espère pas, parce qu'elle n'a pas le pouvoir. C'est le pouvoir pour annoncer un référendum est à Westminster. Mais ça va aider beaucoup la SNP et ça va. Je ne serais pas surpris si d'ici 5 ans. Ce vote se sera passé et l'Écosse sera partie de la Grande-Bretagne.
Maintenant que la libre circulation pour les travailleurs comme pour les touristes est abolie, ou dit autrement, maintenant que les frontières vont se refermer, est-ce que vous avez pu constater un apaisement chez les Britanniques et notamment chez les populistes, ou bien au contraire une inquiétude ?
C'est assez bizarre. Ce qui s'est passé il y a 4 ans, je pense que les gens ont voté pour arrêter l'immigration. Et puisqu'ils ont voté pour le Brexit il y a 4 ans, maintenant, la plupart de l'électorat est content. Bien que le nombre d'immigrants qui viennent en Grande-Bretagne, qui viennent des pays en dehors de l'Union européenne, il y a un nombre record en 2019. Donc, nous avons plus d'immigration de dehors de l'Union européenne qu'avant le référendum. Et le peuple est plus content. Et une autre chose qui a beaucoup changé, c'est que les journaux de droite, comme le Daily Express et le Daily Mail, qui pendant des années, en première page, avaient des histoires d'immigration, des histoires négatives, ne donne plus de publicité à cette histoire. Donc, pour le peuple britannique, les sondages confirment que l'immigration, on n'est pas inquiet.
Une dernière question, Monsieur Breck. Au-delà de la seule politique britannique, cette fois-ci, quitter l'UE aura longtemps été le rêve donc des eurosceptiques. Est-ce que l'exemple aujourd'hui du Royaume-Uni en aura, selon vous, découragé certains?
Je l'espère, parce que même les eurosceptiques doivent admettre maintenant qu'on ne peut pas avoir son cake et le manger. Il y a un prix très très important de quitter un marché unique comme l'Union européenne, et c'est les jeunes principalement qui vont le payer en tant que leur perspective d'emploi et leur par exemple si un jeune britannique veut un partenaire de l'Union européenne dans l'avenir, il va devoir démontrer qu'il gagne assez d'argent pour que cette personne puisse être acceptée en Grande-Bretagne. Donc les jeunes ont beaucoup perdu et les eurosceptiques doivent le reconnaître.
Merci Tom Breck, ex-député, je le rappelle, du Parti pro-européen libéral démocrate, d'avoir répondu aujourd'hui à notre invitation.
C'est que je suis le diable.
C'est une autre mine.
La plus précieuse. Venez voir. Où est-elle?
Par ici, monsieur le comte.
Voilà, vous avez probablement reconnu sa voix, on vient de l'apprendre. Monument du théâtre, le comédien et metteur en scène Robert Hossein est mort ce matin, décédé à l'hôpital après un problème respiratoire. Il était âgé de 93 ans. Alors il avait été, on vient de l'entendre, Geoffrey de Peyrac au cinéma aux côtés de Michel Mercier dans Angélique Marquise des Anges dans les années 60. Et puis Robert Hossein était aussi et surtout le metteur en scène de pièces qui, Stéphane Capron, auront marqué l'histoire du théâtre français.
Au début de sa carrière, Robert Hossein endosse le rôle de séducteur. Son couple au cinéma avec Michel Mercier dans la série Angélique Marquise des Anges fait de lui une star internationale. Fatigué par cette notoriété, il installe sa compagnie de théâtre à Reims, à la Maison de la Culture. Il y reste 8 ans et fait débuter Isabelle Adjani en 72 dans une pièce de Lorca. Puis il devient l'homme des spectacles à très gros budget. Il met en scène la star Jean-Paul Belmondo dans Kin et dans Cyrano de Bergerac au Théâtre Marigny. Il investi des grandes salles, le Palais des Sports, le Palais des Congrès, pour raconter les vies de De Gaulle, Jésus ou de Marie-Antoinette. Ces spectacles drainent jusqu'à 700 000 spectateurs. Puis il invente le concept du théâtre participatif. Il reconstitue les procès Sesnec et Dominici et fait voter les spectateurs à la fin. Mais Robert Hossein a toujours envie de voir plus grand. Alors, en 2006, c'est au Stade de France qu'il choisit de mettre en scène Bénure, le spectacle de la démesure, écrit par Alain Decaux. Il reconstitue une course de chars. Le public est au rendez-vous. 300 000 spectateurs en 5 représentations.
Voilà, Robert Hossein, donc décédé ce matin, alors qu'il avait fêté hier ses 93 ans. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une météo hivernale avec de la neige sur le nord et l'est du pays, de la pluie à l'ouest. Seul le Poitou-Charentes, la région centre et l'Île-de-France devraient bénéficier de quelques éclaircies. Par ailleurs, la vigilance orange crue a été maintenue sur 3 départements, le Gers, les Landes et le Tarn-et-Garonne. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 7 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction. Contre la